Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire, le prof Taillon revient sur le discours du trône à Ottawa et le peu de place accordée aux Français par le gouverneur général qui ne parle pas cette langue. Le prof contraste les conceptions de Trudeau-fils et de Trudeau-père en ces matières. Ensuite, il analyse la décision par laquelle le juge Sylvain Lucier a rejeté la requête des victimes d'arrestations sans mandat qui contestaient la loi des mesures de guerre de 1970. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, et à la maison aujourd'hui parce qu'il a été hydrogéné par sa fin de semaine chez les libéraux.
Et j'ai le teint vert.
Ah oui? Mais l'intérieur est-il rouge, tel une pastèque?
Oui, c'est ça.
Moi, c'est ce que j'ai dit à Dominique Anglade, dans l'impression d'une pastèque. Le rouge libéral à l'intérieur, puis le vert à l'extérieur.
Écoute, Antoine, on a vraiment confirmé le virage à gauche, le virage vert. Plusieurs résolutions adoptées très vertes, comme par exemple des choses contraignantes aussi, là, le fait que si un gouvernement libéral qui était élu, les ministères auraient un budget carbone décroissant année après année, donc ils seraient limités dans leurs actions et leurs décisions en fonction de l'atteinte d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre. C'est, on va très loin.
C'est une incitation, Rémi, à faire des réunions Zoom.
Oui, en effet. Et objectif de réduction de gaz à effet de serre pour 2030 qu'on met à 45 %. Donc, c'est plus ambitieux que le 37,5 de la CAQ. Pas aussi loin que Québec solidaire, cependant. Mais vraiment, plusieurs résolutions à gauche. Et puis, on sentait les jeunes libéraux ont pris beaucoup de place. C'est beaucoup eux qui ont présenté des amendements, par exemple, aux résolutions ou qui ont cherché à aller plus loin. Et même à une reprise, j'ai eu l'impression qu'on irait peut-être même plus loin que Québec solidaire parce que les jeunes libéraux voulaient justement qu'il y ait une taxe sur les VUS. Et ça, c'est comme, on dirait, un peu les talons de mesure pour voir jusqu'à quel point on a le courage, la conviction verte.
Oui.
Puis finalement,
taxer les pick-up.
Il y a eu des intervenants dans la salle, puis finalement, bon, ils sont pas allés jusque-là. Mais tu sais, sinon, c'est ça, c'est très, très vert. Quand les jeunes libéraux, Gabriel Amad, notamment, là, dans son discours dimanche, a parlé de racisme systémique, les gens se sont levés debout. Oui, il y a du racisme systémique, il faut lutter contre ça, puis les gens applaudissaient. T'sais, c'est quand même. C'est très, très proche de Québec solidaire et je l'écrivais dans mon papier ce matin, mais j'ai croisé un élu qui le disait un peu semi à la blague, mais c'était révélateur, qui a dit « On n'est pas QS, pas encore ». Mais c'était quand même révélateur du fait que le PLQ s'est vraiment mis sur cette voie-là. Mm-hmm.
Comment on l'explique, ce virage à gauche-là? Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, toi qui suis la politique, puis comment on l'explique? Pourquoi virer à gauche de même?
Bien, c'est que là, le PLQ se cherche une nouvelle identité, une niche, parce que ça a été tellement longtemps le parti de l'économie. Là, la CAQ, je viens, a pris cette identité-là. Et avant aussi, c'était le parti qui prônait le fédéralisme et qui était le rempart contre la menace souverainiste, si tu veux. Mais là, la menace souverainiste, elle n'est pas là. Donc, tu sais, le PLQ s'est trouvé comme déplumé graduellement.
Il est à la recherche d'une sorte d'identité, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Puis là, ben, est-ce que, je te dirais, là, ça permet de poser la question, est-ce que les gens suivent, là, même à l'interne? Tu sais, dans le caucus actuel, je te dirais que Ce qui a été présenté vendredi, là, le spectacle, la présentation avec une vidéo, là, éco, là, c'était vraiment le mot du week-end, éco, écologie, économie, là, ils ont comme fait un croisement avec ça, pour un chantier important, nationalisation de l'hydrogène vert.
On propose la création d'une sorte de société d'État de l'hydrogène vert. Hein,
c'est... Exact, c'est 100, ils disent 100 milliards d'investissement avec du privé, mais on ne sait pas comment c'est partagé, comment réparti, etc., d'ici 2050. Mais bref, je te dirais que j'ai croisé des élus qui étaient vraiment franchement emballés, là, qui pour eux, c'était bon, enfin, on a quelque chose à se mettre sous la dent, on a quelque chose à proposer. C'est sûr que la plupart me disaient oui, c'est vrai là, qu'il va falloir être plus précis là, au fil des prochains mois pour comment ça va se décliner, cette affaire-là de chantier puis de nationalisation d'hydrogène vert. Mais ils étaient emballés par le fait qu'il y avait un projet et ils trouvaient justement que ça ralliait un petit peu quand même une idée économique derrière le principe écologique. Il y en a d'autres qui étaient perplexes. Là. Quelqu'un m'a dit, bon, on a besoin d'aller chercher l'électorat francophone qu'on a perdu. On a besoin d'aller regagner le cœur des régions. Est-ce que ça va émoustiller les gens? Bon, une personne me disait, je suis pas sûr. Tu sais, ça se demandait justement à quel point ça peut avoir de l'impact.
Dominique Anglade a même admis en conférence de presse que c'était difficile à expliquer aux gens. Son histoire d'éco, là, donc de société d'État de l'hydrogène vert.
Et puis tu vois, en passant, il y avait quelqu'un de ton
entourage.
C'est
tout un aveu pareil. Je suis pas revenu.
Quelqu'un de ton entourage nous avait dit on cherche même à changer l'image de la chef pour qu'elle ait l'air moins ingénieure. C'est sûr que là, si elle se trouve à expliquer des procédés là, de fabrication d'hydrogène, ça risque d'être justement malheureusement son chapeau d'ingénieur qui va être le plus apparent, mais en tout cas.
Mais pourquoi ça serait pas bon d'être une femme ingénieure? Moi, je comprends pas cette idée-là. Ça passe peut-être dans les focus groups, je sais pas, mais.
Ouais, exactement, comme si ça avait l'air justement d'une personne pas près des préoccupations des gens parce que c'est une ingénieure, je sais pas. Mais bref, c'est ça. T'sais, on sent quand même que c'est à moitié enthousiaste, à moitié sceptique, je dirais.
Il y a un élu, moi, qui m'a dit, coudon, on est-tu devenu le Parti vert?
Ouais, ben c'est ça. Quand on est rendu jusque-là. Et en passant, Antoine...
Il y a un autre qui m'a dit, ben c'est quand même un grand chantier, puis on est le parti des grands projets.
Ouais.
Pour parler comme au Saguenay.
Puis aussi, ben... J'ai senti la garde rapprochée vraiment sur les dents. On a cherché vraiment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse.
Ah oui,
pas de contestation. Donc, quand les journalistes ou des chroniqueurs, par exemple, comme moi, là, dans les corridors, parlaient à des élus, je te dis qu'il y en a qui n'avaient pas c'est pas tous qui avaient la même liberté. Il y en a, la whip du parti, on dirait...
La whip fouettait.
Surveillait de près ce qui se passait. Elle avait l'air de vouloir garder le contrôle de ce qui est dit.
C'est Philomena Rotti-Rotti, ça.
Oui, exact. Et même, je te dirais, parce que je l'ai vu là pendant le congrès dimanche matin, quand les jeunes ont parlé justement du conseil d'administration qui gérerait la santé, parce que ça aussi, là, c'est tout qu'un virage. Ce serait plus le gouvernement là, qui déciderait des orientations en santé. Là. Ça serait comme une entité indépendante avec un conseil d'administration sur lequel il y aurait des utilisateurs du réseau, des travailleurs et des gestionnaires à part égale. Je faisais des blagues là-bas en me disant c'est comme une assemblée constituante là, mais bref, j'ai vu.
Mais ça avait été proposé par la commission Claire, une agence de la santé pour dépolitiser la santé. Donc ça fait 20-25 ans que ça se discute. Même Philippe Couillard avait parlé de ça.
Oui, il l'avait évoqué effectivement. Mais tu vois, quand il y en a été question au congrès, j'ai vu Philomena parler à Gaétan Barrette. Comme pour l'inciter à ne pas aller au micro.
Ah bon?
Exactement. Alors, tu vois, j'ai trouvé que c'est ça. On avait cherché à vraiment à faire en sorte que ça reste un environnement plutôt contrôlé pour ce
peut-être,
virage.
Peut-être même que certains acteurs là, dans le parti ont été baïonnés.
Ben, c'est possible, là, parce que tu vois, en tout cas, je te dis pas que nécessairement Gaétan Barrette serait allé au micro, mais j'ai vu que est allé le voir pour lui dire de laisser aller le débat.
Il n'y avait pas beaucoup d'anciens libéraux, ça a été souligné dans les questions. Où étaient les militants traditionnels? Il y en a un qui s'est pointé, c'est le père de Marie Montpetit, puis Marc Montpetit, puis lui, il a dit que le parti n'était plus son parti. Hein. Il a démissionné, ouais, je pense, aujourd'hui, là, de ses fonctions dans la commission politique, par exemple, ou comme à la tête de l'association de Soulanges. Donc, mais où étaient les anciens libéraux? Ça, c'est une grande question.
Ben, c'est la question que je me suis posée, parce que, tu sais, on pouvait les compter sur les doigts d'une seule main, là, sur l'ensemble du week-end. Puis, tu sais, quand on parle d'anciens libéraux, je ne vais pas nécessairement dire vieille garde, là, dans le sens que, tu sais, on pense souvent, par exemple, à Jean-Marc Fournier, tu sais, un libéral pur jus. Bon, il n'était pas là. Mais tu sais, au-delà de ça, je pense aussi à des gens qui sont aussi pas vieux en âge, tu sais, comme par exemple, où était Sébastien Proulx, où était Stéphane Billette, où était Véronique Tremblay, je sais pas où était sa mamade, où était Robert Poitry, où on pourrait...
Ronald Poupart était là, Rémi. Donc, l'ancien conseiller de Robert Bourassa et même de Jean Charest.
Oui, lui, il a vraiment comme complètement donné sa bénédiction à ce virage-là. Il pense que c'est là qu'il faut aller. Mais tu sais, je trouve que c'est révélateur. Il y avait, tu sais, ils sont pas stimulés, ceux qui étaient là il y a encore pas si longtemps. Et bon, est-ce qu'ils ont tous comme quitté le navire? Moi, il y a les quelques-uns qui j'ai parlé me disaient justement qu'il y en a beaucoup qui ont complètement décroché. Mais c'est sans dit long, ça veut dire qu'ils ont pas trouvé qu'il y avait là quelque chose de stimulant pour eux, visiblement. Il y en a un que j'ai vu, mais je veux quand même le signaler, c'est le nouveau sénateur Clément Gignac, puis il était là très brièvement, je lui ai parlé samedi.
Ouais.
Et lui, justement, il dit que c'est l'ancien ministre de l'économie.
Bien sûr.
Et lui, il dit qu'il a même donné quelques avis à Dominique Anglade en lien avec un peu le virage puis l'hydrogène vert. Et lui, il pense que c'était vraiment la chose à faire. Il a dit l'environnement, c'est le sujet le plus préoccupant, l'enjeu là, pour les 10 prochaines années. Alors, lui, il trouvait que c'était une bonne idée. Mais de façon générale, je trouve que c'est quand même, ça en dit long, le fait que c'est comme si il y en a beaucoup qui ont déserté. Et là, alors qu'on avait l'occasion de se retrouver dans un congrès en personne, ben il n'y avait pas... On reconnaissait pas l'équipe libérale des dernières années.
Terminant, Rémi, est-ce qu'il va y avoir un nouveau porte-parole en santé? C'était Marie Montpetit. Oui. Après ça, ben, Dominique Anglade a repris le dossier, mais tout en disant qu'elle ne le reprendrait pas longtemps. Donc, est-ce qu'on sait qui va remplacer?
Je vais y aller d'une prédiction, mais aussi le fait que ça ne devrait pas tarder, je pense, parce que, tu vois, même dans les résolutions au cours du week-end, il était question du fait que le chef du gouvernement devrait s'occuper des questions environnementales lui-même. Donc, si on suit la même logique, là, Mme Anglade n'est pas première ministre, mais au sein de son parti, ça serait logique donc qu'elle prenne la question environnementale, si on suit la philosophie. Et raison de plus, donc, pour ne pas garder la santé. De toute façon, elle avait dit qu'elle redonnerait la santé à quelqu'un. Il faut s'attendre à un petit rebrassage de cartes. Et moi, je pense que ça pourrait être Monsef Béragi, qui a un doctorat en santé publique. Et qui fait partie, je pense, de ceux, là, comme par exemple, comme André Fortin ou comme Isabelle Melançon, qui sont assez proches de Dominique Anglade et qui représentent plus l'avenir de la formation, si tu veux. Alors, moi, je serais pas étonné. C'est sûr que ça pourrait aussi être André Fortin qui a déjà été porte-parole en matière de santé et Marc Tanguay. On me disait Marc Tanguay a bien fait pour talonner Mathieu Lacombe sur les garderies, mais en même temps, moi je trouve que Mathieu, dans le cas de Marc Tanguay, des fois, il a du mal à délimiter jusqu'où il peut aller. Là, des fois, il est bon.
Il y a l'indice partisanerie très élevé.
Oui, indice d'inflammabilité.
Eh mon Dieu.
Alors,
faut travailler là-dessus.
Mais je dirais vraiment mon chef des régies. Moi, je pense que ce serait un choix fort possible.
On pourrait travailler là-dessus, notre indice d'inflammabilité partisane. Tu sais, on pourrait donner une cote à chaque élu. Merci, Rémi. Repose-toi, là.
Ça m'a fait penser à Richard Merlini qui agaçait Claude Béchard quand il avait la hausse de la défense. Il disait l'indice Béchard à la pompe.
Oui, l'IBP, je me souviens très bien. Salut, Rémi. Merci beaucoup.
Salut, bye.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
C'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Bonjour Patrick Tarion.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets aujourd'hui. D'abord, le discours inaugural, évidemment à Ottawa, c'est le discours du trône prononcé par la gouverneure générale. Et ça te donne l'occasion de faire un commentaire sur les politiques linguistiques de Trudeau père et de Trudeau fils.
Ben, j'écoutais le discours, les extraits du discours en français lu par la gouverneure générale Mary Simon.
C'était en français phonétique.
Et oui, exactement. Puis je me disais, qu'est-ce que le père Trudeau, qu'est-ce que Pierre Trudeau aurait pensé de la décision de son fils de nommer comme représentant du chef de l'État, le poste le plus symbolique, le plus officiel de l'appareil fédéral, quelqu'un qui ne maîtrise pas le français. Puis j'avais eu un peu la même question, dans le sens où lorsque Trudeau avait dit un peu de bien, ou en tout cas n'avait pas attaqué frontalement le projet de loi 96 au Québec au printemps dernier, et lorsqu'il avait, dans son projet de loi 32, qui devrait être ressuscité bientôt dans la vie post-électorale...
C'est le fameux projet de loi de Mélanie Joly. Là.
Sur les langues officielles.
Ouais, c'est ça.
Pour la première fois, le gouvernement Justin Trudeau disait « Oui, au Québec, le français est en danger ».
Ça,
c'était une grosse transgression par rapport à la politique de Trudeau. Donc, au fond, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure Pierre Trudeau renierait la politique linguistique de son propre fils? Dans quelle mesure? Il y a quelque chose de profondément transgressif dans certains gestes qu'il a posés. Pourquoi c'est transgressif? Parce que le propre de la politique linguistique de Pierre Trudeau, c'était de maximiser la place du français dans les institutions fédérales. Hein. Les trois colombes qui prennent leur place, beaucoup de francophones qui sont nommés dans des postes importants, notamment des postes ministériels, la loi sur les langues officielles aussi qui contribue à cela. Donc, jamais il n'aurait nommé quelqu'un comme Mary Simon qui ne maîtrise pas le français. Jamais il aurait appuyé le projet de loi 96, même tacitement, parce que sa politique consistait à casser le nationaliste québécois en attaquant la loi 101, donc grosso modo, notamment par 82, par le rapatriement de la Constitution de 1982, Pierre Trudeau a mené une politique où ce qu'il voulait, c'est réduire les compétences du Québec en matière linguistique, refuser toute décentralisation de pouvoir vers le Québec. L'idée que le Québec serait le berceau de la francophonie en Amérique, c'est pas une idée avec laquelle Trudeau était à l'aise. Au fond, pour l'idéal proposé par Trudeau sur le plan linguistique, c'est de répliquer aux indépendantistes en disant que si le français existe encore en Amérique du Nord, si le français est au Canada dans une meilleure situation que le français aux États-Unis, c'est parce qu'il y a le fédéral.
C'est ça.
Donc, c'est au fédéral de concentrer, de centraliser le pouvoir pour protéger le français avec aucune concession, aucune décentralisation, aucune reconnaissance du rôle du Québec. Il faut se rappeler que Pierre Trudeau est sorti de sa retraite, de son devoir de réserve d'ex-premier ministre pour lutter contre l'accord du Lac-Meech qui reconnaissait le rôle spécial du Québec dans la
promotion. Et l'accord de Charlottetown.
Et l'accord de
son
Charlottetown
fameux discours
aussi.
De la maison du egg roll.
Donc, vraiment, la politique de Pierre Trudeau est aux antipodes de l'idée que le Québec peut en faire plus pour protéger le français, qui est derrière le projet de loi 96, et de l'idée que Ottawa reconnaît que le français, la majorité francophone au Québec, le fait français au Québec est aussi menacé et qu'il a aussi besoin de protection. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que cette transgression du fils, c'est un virage profond et permanent ou si c'est une période passagère où on voulait un peu séduire l'électorat québécois dans cette phase préélectorale? Est-ce que Justin a terminé...
Moi, je pense qu'il y a un virage philosophique.
J'espère que c'est durable.
Philosophique, parce que le Trudeau père avait cette idée de l'universalisme qui est aujourd'hui dépassé ou comment dire, contesté par une espèce de politique des identités.
Et il y a un profond relativisme dans l'approche Trudeau. Hein. Bientôt, on va valoriser la valeur bilinguisme. Donc, l'important au Canada, ça va être d'être bilingue. Anglais est la langue de votre choix.
Ouais.
C'est un peu ça, hein, la nomination de Mme Simon.
C'est risqué. Il y a beaucoup de risques.
Donc ça, je pense que ce virage-là est durable. Et je dis pas que...
Il y a du risque dans les deux.
Oui.
Parce que l'universalisme niait au Québec le pouvoir d'avoir la possibilité d'avoir une société distincte, un statut particulier pour défendre, cette langue qui était plus en danger. L'universalisme de Trudeau-Père niait ça. Mais Trudeau-Fils, lui, il est dans la politique des identités, mais ça peut aussi nous ramener une espèce de Canadien-Français ethnique, Québécois ethnique qui est... C'est les deux ont des, je trouve, des pièges.
Le contraste est réel. Je me demande s'il va perdurer parce que, ne serait-ce que dans l'amertume de la dernière élection, dans sa relation avec le Québec, les gains que le Parti libéral espérait, est-ce que ça va créer à Ottawa, au sein du gouvernement de Justin Trudeau, un goût pour revenir à l'orthodoxie puis à une ligne un peu plus dure à l'endroit de la question linguistique au Québec? Et je dis pas que la politique de Justin Trudeau n'est que favorable. Il y a des bons mauvais coups. Mary Simon, c'était pas son meilleur coup, mais elle est différente de celle de son père.
Son père a tout inscrit dans la Constitution, alors que le fils, pour l'instant, n'a rien inscrit d'aussi, comment dire, durable.
Absolument.
Que la Constitution.
Et le fils va être sous pression parce que le Bloc québécois a des exigences supplémentaires. Le virage qu'entreprend Justin Trudeau, le Bloc québécois veut danser avec le gouvernement Trudeau, notamment en avançant deux idées très intéressantes. Exiger la prépondérance des lois québécoises en matière linguistique. Mmh. Donc, on ne demande pas de rapatrier des pouvoirs de modifier la Constitution, juste d'admettre l'idée que s'il y a un conflit de loi, il y a une prépondérance, il y a une loi qui doit l'emporter sur l'autre, qui, en raison du dossier linguistique, dans ce cas-ci, ça doit être, il faut additionner les efforts des deux gouvernements, mais en donnant une priorité au gouvernement du Québec. Et l'autre idée forte, c'est, et un peu transgressive par rapport à l'héritage de Trudeau père, c'est de dire que le Canada exige, déjà, ça c'est l'état du droit actuel. Le Canada impose des tests linguistiques à tous les nouveaux arrivants qui veulent obtenir la citoyenneté. Pas la résidence permanente, mais la citoyenneté. Et le Bloc québécois invite le gouvernement Trudeau à pousser son raisonnement un peu plus loin et à dire, si vous reconnaissez qu'au Québec, c'est le français, lorsque l'on applique l'exigence fédérale de connaissances linguistiques pour un nouveau citoyen... qu'au Québec, ça soit non pas au choix du nouvel arrivant, mais bien le français qui soit imposé, non pas le français ou l'anglais. Et donc ça, c'est une idée importante parce que ça n'empêche pas le statut de résident permanent. Un résident permanent peut avoir pratiquement les mêmes droits tout en ne maîtrisant pas le français, mais ça envoie un message extrêmement fort aux nouveaux arrivants. C'est presque les avantages de la souveraineté sans les risques, parce que le message qui sera envoyé par le gouvernement Trudeau, c'est qu'au Québec, c'est pas pareil. Il y a partout une exigence linguistique, mais elle s'adapte à la réalité du Québec et pas besoin de modification constitutionnelle pour aller sur ce type de modification. Donc, le gouvernement pourra pas dire « je veux bien, mais je peux pas, la Constitution, c'est compliqué, il n'a qu'à le mettre dans sa loi, le fera-t-il? »
Parlons d'octobre 1970 maintenant. Il y a la requête de Gaétan Dosti et justice pour les prisonniers d'octobre 1970 qui a été rejetée.
Oui, la semaine dernière par le juge Sylvain Lucier. On le connaît bien, Sylvain Lucier. Parce
l'ancien de la commission Gomery de la commission Charbonneau, brièvement.
Une star de la commission Gomery, nommée par le gouvernement Trudeau en 2016. On a parlé de lui à ce micro parce que c'est lui qui a suspendu, à la demande des commissions scolaires anglophones, la réforme des commissions scolaires et on attend la décision finale dans ce dossier. On attaquait quoi ici?
Ouais.
Au fond, grosso modo, ce sont le requérant, c'est Gaétan Dosti, jamais été membre du FLQ, étudiant à l'époque, connaît deux arrestations le 16 et le 17 octobre, finit par faire 11 jours de prison, mais jamais accusé de rien. C'est loin tout ça, ça fait plus de 50 ans. Mais de nouveaux faits sont révélés à l'occasion de la commémoration du 50e, notamment à travers les recherches d'Anthony Beauséjour qui montrent que lorsqu'on a adopté la proclamation qui a mis en place la loi sur les mesures de guerre, on a adopté un texte qui était rédigé uniquement en anglais, ce qui contrevient à l'article 133 de la Constitution canadienne. Un argument qu'on ne pouvait pas savoir parce qu'il fallait fouiller dans les archives pour trouver le document.
Et donc, il y a eu une irrégularité qui a été faite. Donc, on attaquait quoi? Ben là, c'est là que je pense qu'il y avait une force dans la requête qui avait été déposée, mais aussi des faiblesses. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs arguments intéressants, mais qui se mélangeaient peut-être avec plusieurs arguments tellement audacieux qui ont peut-être fini par faire peur aux juges, qui l'ont un peu apeuré. Je pense parmi les arguments intéressants, et très d'actualité par ailleurs, en octobre 70, il n'y avait pas la Charte canadienne.
Non.
C'était pas encore adopté, mais il y avait la déclaration. Il y avait la Déclaration canadienne des droits, qui, un peu comme la Charte québécoise et la Charte canadienne, contient une disposition qui permet de déroger à certains droits lorsque le politique le juge nécessaire. Mais dans tous ces textes, c'est toujours la même chose. Ces textes mentionnent que c'est le Parlement, donc le législateur, qui peut déroger, jamais le gouvernement. Or, en octobre 70, le Parlement n'a jamais dérogé à la Déclaration canadienne.
Donc, ça a été un décret adopté par le gouvernement. Mais on dit toujours la loi sur les mesures de guerre.
Oui, mais la loi ne contient pas la dérogation.
On a invoqué, c'est ça.
C'est ça.
OK, décret, on a invoqué une loi préexistante.
Oui, et donc la question fondamentale, c'est est-ce que le gouvernement a le pouvoir de déroger aux chartes? C'est une question qui aurait pu se poser pendant
la
COVID.
C'est pas l'exécutif.
C'est pas une question totalement... C'est une question qui a une certaine actualité. L'autre question, c'est la question de la langue. Est-ce qu'on a violé l'article 133? Là, on a des recherches d'archives qui montrent que oui. Ça aurait été intéressant d'avoir une décision. Le juge a décidé que non, il refusait d'entendre l'affaire. Il rejetait l'affaire avant même qu'elle n'ait pu commencer. À ça se mélangeaient d'autres arguments. On cherchait à refaire le débat sur est-ce qu'il y avait vraiment une insurrection appréhendée.
Ouais.
On cherchait à mobiliser des textes internationaux et certaines normes non écrites de la Constitution. C'est peut-être ces arguments un peu moins efficaces qui, à mon avis, ont peut-être fait peur au juge dans ce débat. Chose certaine, si je résume le raisonnement du juge Lucier, c'est que, je le cite, c'est une question purement théorique. La juger aujourd'hui n'aurait aucune utilité pratique. Donc, il dit les tribunaux ne doivent pas être instrumentalisés pour des débats politiques. Leur rôle, c'est de dire l'état du droit.
Pourtant,
en refusant de répondre, ils nous privent de certaines réponses sur l'état du droit qui auraient pu être très utiles. Mais surtout, je pense que c'est ça qui est important. La décision du juge Lucier n'est pas une mauvaise décision. Mais il faut pas se réfugier derrière le fait qu'il était lié par des critères. Parce que sur ces questions-là, est-ce que le tribunal...
Qu'est-ce que tu veux dire, se réfugier derrière...
De laisser croire qu'il n'avait pas le choix, que c'était la seule décision qu'il pouvait rendre. En vérité, sur ces questions-là, on reconnaît aux tribunaux une immense discrétion. Discrétion, ça veut dire une immense marge de manœuvre. Donc, on le dit, là.
C'est ça.
Il y a des indices, il y a des critères.
Le test des tribunaux, c'est pas un test de pH de ta piscine, là.
Exactement. Pas... Surtout sur ces questions.
C'est ça.
Qui portent sur, attention, le jargonnage juridique, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, qui portent sur la justiciabilité. C'est-à-dire, est-ce que c'est une question susceptible de faire l'objet d'un débat devant les tribunaux? Et donc, ça va être très difficile pour les requérants d'aller en appel s'il décide d'y aller. Parce que comment on peut dire qu'un juge de première instance a fait une erreur quand l'état du droit, c'est de dire que le juge peut faire ce qu'il veut?
C'est ça.
Et donc, ça va être très difficile de démontrer qu'ici, le juge s'est trompé.
Du juge, donc,
Chose certaine, c'est vrai que ça faisait longtemps. Mais en même temps, requérants avaient vraiment vécu la situation. Il n'y avait pas vraiment d'autres moyens raisonnables de saisir les tribunaux. Et ce n'était pas une question purement hypothétique. Ils avaient vécu la crise. C'est sûr que les textes qu'ils attaquaient n'étaient plus en vigueur. Donc, le verre était à moitié vide, à moitié plein. Chose certaine, il y a plein d'autres choix. Par exemple, on parlait de la décision du juge Hierzeau, il y a quelques jours.
Hierzeau, mais oui.
Qui s'est prononcé sur un décret qui ne s'appliquait plus. Il aurait pu dire « c'est théorique, je me prononce pas ». Mais c'est ça, en ces matières-là, le juge fait ce qu'il veut. Des fois, il décide, sur des questions comme Daigle contre Tremblay sur l'avortement, la femme n'est plus enceinte, c'est devenu théorique. Non, je me prononce quand même. Ils ont la discrétion, il a décidé de ne pas l'exercer, c'est son choix, mais on ne peut pas se réfugier derrière des critères.
Tu veux souligner quelques passages que tu trouves particulièrement ridicules dans le jugement du juge Sylvain Lucier?
Il y avait des bonnes raisons de rejeter l'affaire, mais par moments, il y en avait des mauvaises. Entre autres, il dit « moi, je ne veux pas un débat d'expert sur une preuve d'historien ». Il dit, il y a des acteurs de l'époque qui sont maintenant disparus, qui sont décédés. Inutile d'avoir une preuve. Ça va devenir un débat d'historien. C'est pas ça qu'on veut devant les tribunaux. Pourtant, notamment en droit autochtone, il y a de nombreux dossiers qui...
C'est presque juste ça.
Oui. Et ce passage préféré, c'est le moment où il dit « la question est trop émotive pour être débattue devant les tribunaux ».
Attends, là, c'est-tu vraiment écrit dans la décision?
Paragraphe 100.
Est-ce ben que voyons
tu,
donc.
Tu peux nous faire l'honneur de nous lire le paragraphe 100?
Le débat suscite encore aujourd'hui des émotions fortes. Ce dont fait état la demande introductive d'instance et dont le tribunal peut prendre connaissance d'office, on peut en dire autant de la condamnation de Louis Riel, et ce n'est pas son procès qui a mis fin à la controverse.
Donc, on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire. Il dit que ça suscite des émotions trop fortes. Donc, quand c'est un nouveau critère, ça, quand ça suscite une question est trop sensible, il ne faudrait pas que les tribunaux se prononcent. Il y a quelque chose là qui...
La laïcité. Hein? Émotion trop forte, on n'en traite pas.
Ben, les questions liées aussi au droit à l'égalité, le racisme, ça suscite Voyons. Aussi des. C'est, au contraire, c'est le rôle des tribunaux d'intervenir.
Monsieur Lucier, quand même.
Et puis, bon, le problème du juge, je termine là-dessus, c'est qu'il doit faire face à la comparaison en droit autochtone. En droit autochtone, on juge fréquemment quand même des questions historiques où les gens, les acteurs de l'époque ne sont plus parmi nous, des textes qui produisent plus d'effets. Et il cite un long passage de la Cour dont je vais peut-être vous épargner la lecture, qui justement, au contraire, là, on dit, ben même si ça fait plus d'un siècle et demi, si on veut réconcilier, dans ce cas-ci, les Autochtones et le reste du Canada, mais imaginons qu'au lieu des Autochtones, ce soit le Québec avec le reste du Canada ou les nationalistes québécois, ben il est nécessaire que le tribunal rende un jugement déclaratoire. Ça fait partie du processus de réconciliation. Je lis quelques mots. Le clivage persistant de notre tissu social auquel l'adoption de l'article machin devrait remédier, demeure entier si on ne se prononce pas. Donc, on voit là, qu'il y a un peu deux poids, deux mesures. Le juge s'en sort.
On changerait les mots autochtones pour québécois, ouais. Puis ça fonctionnerait.
Le juge s'en sort en disant le droit autochtone, c'est le droit autochtone, le reste, c'est autre chose, puis c'est comme ça qu'il botte en touche. Une décision qui va être difficile à attaquer parce qu'il avait le droit de décider ça, mais c'est un choix qu'il a fait. Faut pas se cacher derrière des critères où, en vérité, le véritable critère, c'est que le tribunal a la discrétion d'accepter ou refuser.
Un choix qui engage l'avenir. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.
Merci, Antoine.
Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, là. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.